Frédéric Rognon est professeur de philosophie des religions à la faculté protestante de Strasbourg. Il a aussi fait un doctorat d'anthropologie. Il s'est beaucoup intéressé à la Nouvelle-Calédonie. Il s'intéresse aussi à la sociologie des religions, à l'éthique sociale et aux études dogmatiques et œcuméniques. Oui, c'est bien vrai. C'est l'auteur de plusieurs livres. Le dernier s'intitule « Colère, indignation, engagement, forme contemporaine de citoyenneté » et il date de 2019. Bon, en fait, ici, celui que vous trouverez, c'est celui qui est consacré à Maurice Linhart, dont Frédéric Rognon va certainement vous parler, puisque c'est un personnage important de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je lui laisse compléter la présentation par ce qu'il juge bon de nous dire. Je vous rappelle que la conférence dure approximativement une heure et suivie d'une petite pause, vous pouvez échanger vos questions entre vous avant de les poser au conférencier pour la deuxième partie de la soirée. Et puis bien sûr qu'il y aura une corbeille à la sortie pour les frais de la conférence. Si jamais on avait un peu de bénéfice, on envisage de compléter, comme on le fait d'habitude, les livres de la bibliothèque municipale dans le secteur des religions. Mais ces derniers temps étaient un peu durs. Bon. Par ailleurs, notre association serait ravie d'avoir un peu plus de membres. Et je pense que Marie-Claire, qui est là, a des bulletins d'adhésion à vous proposer. Voilà pour toutes les choses en dehors, à côté de la conférence, et je laisse la parole à Frédéric Rognon.
Merci, merci Marie-Christine. Merci pour votre invitation. Et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être présent ce soir, d'avoir fait le choix d'être ici. Sans doute qu'il y a beaucoup de choses passionnantes à faire sur la place de Belfort, sans doute des chaînes de télévision passionnantes aussi, mais vous avez fait le choix d'être là, et je vous en remercie, pour évoquer un territoire lointain, territoire du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, mais un territoire qui nous concerne, puisque c'est encore, jusqu'à preuve du contraire, un territoire français, et donc en tant que citoyen français, il est important de s'y intéresser et de se sentir concerné par ses compatriotes du Pacifique Sud. Voilà, alors la Nouvelle-Calédonie, je ne vais pas parler de moi, mais je voudrais juste dire, pour compléter la présentation, quel lien j'ai avec la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui m'a amené à m'y intéresser et quel est mon lien particulier. J'ai un lien assez fort avec la Nouvelle-Calédonie puisque j'y ai vécu quelques années, j'y suis allé 5 fois, et encore récemment au mois d'octobre dernier. Et la première fois c'était en 78, donc vous voyez il y a 41 ans entre le premier et le dernier séjour, et j'ai vu ce territoire évoluer, j'y ai enseigné, j'étais prof de philo dans le lycée protestant de lycée d'Ocamo, envoyé par les églises de France, et puis j'ai également fait une recherche en ethnologie, en anthropologie religieuse exactement, sur la religion traditionnelle des Kanaks et la conversion au christianisme. Et je me suis intéressé en particulier à un personnage auquel j'ai consacré ce livre, Maurice Linhart, missionnaire protestant en Nouvelle-Calédonie, dont je vais reparler tout à l'heure. Et donc, voilà, c'est un territoire qui me tient à cœur. Alors, je ne sais pas ce que vous savez déjà de la Nouvelle-Calédonie. Sans doute parmi vous, certains connaissent, certains y ont vécu, je le sais, d'autres le connaissent moins, peut-être pour certains ça n'évoque pas grand-chose, donc je vais essayer donner, de mettre chacun au même niveau d'information, donner quelques données basiques. La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui se trouve exactement aux antipodes, donc si on faisait un trou ici à Belfort, au bout d'un certain temps, on arriverait en Nouvelle-Calédonie, mais au bout d'un certain temps, c'est un territoire qui est assez vaste, hein, ce qui fait que la grande île fait 400 km de long et 50 km de large, et est entourée d'un certain nombre de petites villes, et la population est assez réduite, c'est moins de 300 000 habitants, et surtout très mal répartie, puisque la capitale Nouméa représente plus de la moitié, largement plus de la moitié de la population, donc ce qu'on appelle la Brousse, les îles se sont dépeuplées ces dernières années, ça j'ai pu le constater encore cette année, l'an dernier quand j'y suis allé, et donc nous avons une grande ville, une ville de 150 000 habitants avec la banlieue, et puis un territoire assez dépeuplé avec moins de 10 habitants au kilomètre carré. Alors je vous dirais que je me suis beaucoup intéressé à ce personnage de Maurice Sénart, qui est un missionnaire protestant, et je crois que je vais en parler d'emblée parce que c'est une bonne porte d'entrée pour parler de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on va parler surtout de dialogue et d'actualité, mais on va commencer par faire un peu d'histoire et montrer aussi tous les échecs du dialogue ou tous les manques de dialogue qu'il y a eu au cours de l'histoire pour comprendre la situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et je partirai d'une anecdote, mais qui est très significative. Lorsque Maurice Sénart, missionnaire protestant français, arrive à Nouméa en 1902 pour son premier séjour, il est accueilli par le maire de Nouméa avec ces mots: « Monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Dans 10 ans, il n'y aura plus un seul autochtone. » Ouais, en guise d'accueil, il y a mieux. Voilà une phrase qui a fait beaucoup réfléchir à Maurice Sénart. Pourquoi est-ce que je viens en tant que missionnaire, je viens auprès d'un peuple qui se meurt? Et alors, pour comprendre cette phrase du maire, il faut remonter encore un peu en arrière, faire un petit peu d'histoire et un peu de démographie. Je crois que pour comprendre la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, il faut beaucoup faire de l'histoire et de la démographie. Donc on va partir de 1853, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. En 1853, on évalue la population autochtone, donc on appelle la population Kanak, entre 50 et 100 000, c'est très difficile à dire, puisqu'il n'y avait pas de recensement bien entendu, mais disons que le bas de la fourchette c'est 50 000, et le haut de la fourchette c'est 100 000 autochtones. Ce qui est clair, c'est qu'en 1902, là il y a des recensements, et il n'y en a plus que 10 000. C'est-à-dire qu'en 50 ans, la population autochtone s'est effondrée d'au moins 80% si c'est 50 000, voire 90% si c'est 100 000. Et on va essayer de comprendre pourquoi cet effondrement, et ensuite pourquoi, avec l'arrivée de Maurice Sénart, et avec son œuvre qui va durer 26 ans, jusqu'à dans les années 20, eh bien, l'effondrement démographique va cesser, et la démographie de la population autochtone va se ressaisir, très doucement, et puis de plus en plus net, au point qu'aujourd'hui, les derniers recensements de 2014, donne pour la population autochtone 106 000 Kanaks. C'est-à-dire qu'on est revenu au niveau, peut-être, de 1853. Pourquoi cet effondrement et pourquoi cette, je veux dire, résurrection, en tout cas, cette disparition enrayée, cette disparition qui a été empêchée? Et est-ce que Maurice Sénart a joué un rôle? Et je crois qu'on va en parler au sujet du dialogue. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la population kanak se ressaisisse du point de vue démographique, et voilà, c'est ça l'énigme qu'on va essayer d'aborder maintenant, et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cet effondrement d'abord? 1853, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie, pour quelle raison? C'est Napoléon III qui est au pouvoir à ce moment-là et qui décide de prendre possession de ce territoire lointain, très lointain, pour y instaurer un bagne. Ça a été la première raison de la prise de possession. On n'a pas encore découvert du nickel, ça sera seulement dans les années 1870, donc bien après. Donc on ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait là une richesse pour la France. Et donc, la raison première, c'est d'y instaurer un bagne. Pourquoi instaurer un bagne en Nouvelle-Calédonie? Ça va vous paraître un peu étrange, ou vous faire sourire, mais c'est la réalité historique. C'est qu'il y avait déjà un bagne à Cayenne, en Guyane, mais que les bagnards, donc ceux que l'on envoyait, que ce soit des droits communs ou des politiques qu'on envoyait au bagne, trouvaient un moyen soit de s'évader pour certains, soit, après avoir purgé leur peine, on les obligeait à rester sur place, mais ils réussissaient à revenir en métropole. Donc on s'est dit, la tête de Napoléon III et de ses conseillers, il faudrait trouver un lieu le plus loin possible de la métropole, pour envoyer là-bas tout ce dont on ne veut pas chez nous, c'est-à-dire à la fois des criminels, et puis il va y avoir ensuite des transportés politiques, on va distinguer les déportés et les transportés, donc les politiques et les droits communs, et donc ce sera ensuite, après les droits communs, ce sera les communards, 1871, et puis également des rebelles kabyles, il y a des rébellions en Kabylie dans les années 1871-72, et on envoie donc les chefs rebelles là-bas. Et au total, sur une cinquantaine d'années, il y aura 40 000 bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie, avec l'obligation, après avoir purgé leurs 5 ans, 10 ans, 15 ans de travaux forcés, de rester sur place, de s'installer sur place. Obligation accompagnée d'une incitation, puisqu'on va leur fournir de la terre, parfois une tête de bétail, et puis, ça aussi c'est un peu étrange, mais voilà, c'est l'histoire de notre pays, on va leur envoyer des bateaux avec des dizaines d'orphelines pour qu'ils puissent se marier et s'installer sur place. Donc c'est une colonisation pénale à l'origine de ce territoire. Or, il y avait une population autochtone qui voit débarquer ces bagnards. Des premiers temps, ils les regardent avec un peu de circonspection, ils sont un peu surpris, mais petit à petit, les bagnards, une fois qu'ils sont libérés, vont s'installer en brousse et petit à petit vont chercher les terres les plus favorables, les plus fertiles, et vont donc les prendre aux autochtones. Il y aura au cours du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, un certain nombre de révoltes kanaks, sporadiques, parce que la structure sociale traditionnelle n'est pas du tout centralisée, on n'a pas du tout de royaume en Nouvelle-Calédonie, à la différence de Tahiti, de la Polynésie. Donc ce sont des groupes très autonomes, très segmentaires, une grande décentralisation de la structure sociale, et donc pas du tout des groupes qui pourraient s'unir pour se rebeller, sauf que en 1878, un certain nombre de groupes arrivent à s'unir et à se révolter, la révolte 1878, contre ces empiétements, contre ces spoliations foncières, faillit renvoyer les Blancs à la mer. Il fallait à l'époque beaucoup de temps pour que les renforts puissent arriver. Ils ne pouvaient pas arriver d'Australie, puisque c'était l'ennemi anglais qui était en Australie. Il fallait qu'ils viennent de beaucoup plus loin. Et donc la présence française a été menacée à ce moment-là, et quand les renforts sont arrivés, l'armée française est arrivée en 1878, ça a été une guerre, une répression terrible, des milliers de morts, et à partir de ce moment-là, on sait que la population kanak s'est effondrée. C'est pas tellement les 20 premières années, les 25 premières années de la colonisation, mais en fait c'est en 25 ans que la population s'est effondrée de 80%, voire 90%. Alors pourquoi? Eh bien parce que les Kanaks se sont sentis vaincus par un adversaire beaucoup plus puissant techniquement, Et ils ont commencé à noyer leur désespoir dans l'alcool. Alors, on ne meurt pas de l'alcool, a priori, mais voilà, on ne faisait plus d'enfants. On passait ses nuits à boire. On mourait quand même de pneumonie après avoir cuvé sa bière au petit matin. Et puis, de désespoir, les Kanaks ont cessé de faire des enfants. Et ça, c'est démontré, c'est qu'il y avait beaucoup d'avortements d'abord, et puis également des pendaisons collectives de tribus entières. De désespoir, on arrête de faire des enfants. Les Kanaks sont cantonnés dans des réserves dont ils n'ont pas le droit de sortir, et ils doivent laisser leur terre à cette colonisation pénale, leur meilleure terre. Ils sont refoulés au fond des vallées dans les lieux les moins fertiles. Donc, on arrive en 1902, lorsque Maurice Sénart débarque à Nouméa, eh bien, il est accueilli par ces mots, « Dans 10 ans, il n'y en aura plus ». Et c'était probable parce qu'il y a bien des cas dans le Pacifique comme ailleurs, évidemment aux Antilles ou chez les Amérindiens, il y a des tribus ou des peuples qui ont disparu. Pour ce qui concerne la région du Pacifique, la Tasmanie, par exemple, au sud-est de l'Australie, n'a plus du tout de population autochtone depuis les années 1870. Donc, il y a eu des cas où la population autochtone a totalement disparu du fait de la colonisation. Et on pensait que ça allait être la même chose en Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ça ne soit pas le cas? Et pour que la démographie, finalement, se ressaisisse? Alors, j'ai analysé ça d'assez près, je vais aller vite, mais j'ai analysé ça de près dans ma thèse de doctorat et dans ce livre. Je peux le dire de manière assez synthétique, l'œuvre de Maurice Sénart est un des vecteurs sans doute décisifs pour cette reprise démographique. Alors, ça peut paraître étonnant qu'un homme tout seul ait provoqué cela. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça? Alors, Maurice Sénart était le premier missionnaire protestant sur la Grande Terre, donc sur l'île principale. Il y avait une mission catholique déjà depuis une cinquantaine d'années, mais une mission catholique qui végétait, qui n'arrivait pas à progresser. Et lorsque Maurice Sénart arrive en Nouvelle-Calédonie, il est accueilli comme le Messie, c'est le cas de le dire, parce qu'on estime que il apporte quelque chose, on compte sur lui pour qu'il donne une perspective de vie, et c'est ce qui va se passer. Maurice Sénart va arriver sans préjugés, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, parce qu'il va arriver en Nouvelle-Calédonie sans avoir l'idée d'imposer quoi que ce soit. Bien sûr, c'est un missionnaire, il va parler, il va prêcher la bonne parole, mais il reçoit quelques semaines après son arrivée de son père une lettre qui lui dit « Je te rappelle, donc il en avait parlé avant, je te rappelle que tu es pasteur, tu es missionnaire, tu vas parler, mais ne parle pas trop vite, écoute d'abord. » Vous voyez, là on commence déjà à parler du dialogue. « Écoute d'abord et tu verras, essaye de comprendre, tu verras que ce que vivent les autochtones, c'est peut-être quelque chose qui te semble étrange, mais qui a sa logique, qui a une raison d'être. Et donc, commence par écouter, commence par observer, et ne parle pas trop vite. » Et ça, c'est décisif pour ce jeune missionnaire, il a 24 ans. Il est né l'année de la révolte, c'est-à-dire 1878, c'est un peu une coïncidence, hein. Et il arrive donc 24 ans plus tard, ce jeune missionnaire, eh bien, il va suivre les conseils de son père, il va se mettre à l'écoute et à l'école, je dirais, du peuple qu'il vient évangéliser. Et j'ai beaucoup travaillé sur des témoignages de cette époque, des gens, les Kanaks, sont pour la première fois écoutés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus méprisés, ils ne sont plus considérés comme des sauvages, qui vont disparaître. Ils accueillent ici un missionnaire, il faudrait dire un couple missionnaire, parce qu'il vient avec sa femme, un couple missionnaire qui se met à leur écoute et qui se met à leur école. Et la meilleure façon de se mettre à l'école d'un peuple comme celui-ci, c'est d'apprendre sa langue. Ce que, par exemple, les missionnaires catholiques ne faisaient pas. Les missionnaires catholiques enseignaient en français, ils scolarisaient, ils ont fait un gros travail de scolarisation, mais Maurice Sénart a commencé par apprendre la langue de ses élèves, des futurs pasteurs qu'il était en train de former dans la station missionnaire qu'il va créer, se mettre à l'apprentissage de la langue de l'autre, c'est à la fois entrer dans le monde de l'autre, dans le monde symbolique, dans le monde métaphysique de l'autre, et puis c'est se mettre dans une position d'humilité, parce que, eh bien, il était l'élève de ses élèves, tout simplement. Il avait ça c'est propre à la tradition protestante, tous les missionnaires protestants ont fait cela, il avait cette intention de traduire la Bible pour que les Kanaks puissent la lire dans leur propre langue, mais à la différence de Luther qui a insisté sur la traduction de la Bible dans les langues de tout le monde, en allemand, Luther, lui, traduisait dans sa propre langue, alors que Maurice Sénart, il va traduire la Bible dans la langue qui n'est pas la sienne, c'est propre du missionnaire. Et donc, il faut d'abord qu'il apprenne la langue, ça va prendre des années, pour bien la maîtriser, et ensuite pouvoir traduire la Bible. Et ça va l'occuper pendant quasiment tout son apostolat de 25 ans. Et comment faisait-il? Eh bien, il raconte sa technique, sa méthode pour traduire la Bible. Il parlait en français lorsqu'il prêchait le dimanche, et puis le dimanche après-midi, il rassemblait ses élèves, les futurs pasteurs, ceux qui voulaient devenir pasteurs, il les rassemblait pour leur demander « qu'est-ce que vous avez compris du sermon de ce matin ?» Et maintenant, essayez de le traduire dans votre langue, quels sont les concepts qui pourraient être choisis pour traduire telle ou telle notion théologique. Et je prends juste un exemple, mais il y en aurait des centaines. Comment on va traduire le concept de rédemption? La rédemption, c'est un concept théologique un peu abstrait. Comment est-ce qu'on va le traduire dans cette langue, la langue des Kanaks? Eh bien, ils discutent entre eux, ils expliquent ce que c'est, qu'est-ce que le Christ a fait pour les hommes, et qu'est-ce que cette rédemption. Et alors, ces élèves discutent entre eux, et puis ils se disent, ben voilà, il y a un arbuste dans la tradition Kanak qu'on allait planter sur un lieu de bataille où le sang avait coulé, où les tribus s'étaient affrontées. Et ensuite, une fois qu'on avait planté l'arbuste après la signature de la paix, on avait planté l'arbuste sur le champ de bataille, eh bien, on considérait que l'arbuste avait capté tout le sang qui avait été versé sur ce champ de bataille, et on arrachait l'arbuste et on le jetait. Et c'est ça qu'on propose, le nom de cet arbuste qu'on propose pour parler de rédemption. Et Maurice Sénart a dit, ben, vous avez tout compris. Et effectivement, on va choisir ce terme. C'est un terme très concret du langage traditionnel, c'est le nom d'un arbuste. Eh bien, vous allez donc choisir ce terme pour traduire ce concept. Et il va ainsi, petit à petit, avec ses élèves, donc dans une collaboration quasiment d'égal à égal, où chacun apporte ce qu'il peut apporter à l'autre, traduire la Bible, et ainsi permettre aux Kanaks de lire la Bible dans leur propre langue, avec des termes qui leur parlent dans leur propre tradition. Il va aussi, j'irai assez vite parce qu'on ne va pas faire trop d'histoires, mais il faut quand même raconter ces histoires des années 1900, 1910, 1920. On est encore à une période où il y avait beaucoup de spoliation foncière, où les bagnards, mais aussi des colons libres, qui ne sont pas venus comme bagnards, mais qui viennent coloniser la Nouvelle-Calédonie, n'hésitent pas à laisser leurs troupeaux de bestiaux vagabonder sans mettre de barrière, et donc les vaches vont aller dans les jardins des Kanaks et les piétiner, et il y a encore des révoltes jusqu'en 1917, la dernière grande révolte de réaction des Kanaks. Maurice Sénart va ici jouer un rôle important pour obtenir justice, pour arrêter les spoliations. Il avait une technique très fine, il ne voulait pas se mettre en danger, il risquait gros, il risquait l'expulsion s'il dénonçait publiquement les choses. Et donc, il avait une stratégie assez judicieuse, c'est-à-dire que dès qu'il voyait un abus, dès qu'il voyait une exaction, Il prévenait Nouméa, il prévenait le gouverneur, si c'était un gouverneur avec lequel il avait une bonne relation, de manière à ce que les choses se sachent et que le gouverneur envoie une enquête, envoie les gendarmes. Et lorsque le gouverneur, parce qu'il y a eu des périodes comme cela, n'était pas du tout favorable à la justice et aux droits de l'homme, eh bien, il prévenait Paris. Il prévenait des personnes dans les ministères qu'il connaissait et qui pouvaient ensuite faire pression sur le gouverneur. Vous voyez, il jouait sur du velours, hein, il était très fin et très, une stratégie très subtile. Et c'est comme ça qu'il a permis au Canac de se faire respecter. Et bien, c'est là que je situe l'un des vecteurs principaux de la reprise démographique, c'est que les Kanaks se sont sentis pour la première fois écoutés, pris en compte par quelqu'un qui s'intéressait à eux, qui s'intéressait à leur culture, qui apprenait leur langue. Les Européens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie ne cherchaient pas du tout à apprendre la langue, les langues kanaks. Donc c'était une expérience tout à fait nouvelle pour eux. Et quelqu'un qui venait en plus leur parler d'un dieu qui pouvait les libérer de leur, les émanciper, les libérer de leur asservissement. Maurice Sénart a quitté la Nouvelle-Calédonie en 1926, revenu en France, il a été pasteur dans un poste de la mission populaire à Paris. Et puis ensuite, il est devenu ethnologue, c'est-à-dire qu'il a, enseigné à l'école pratique des études, puis finalement à la Sorbonne, à partir de tout ce qu'il avait emmagasiné, de ce contact culturel très riche, de ses 25 années passées en Nouvelle-Calédonie. Mais pour vous donner encore une anecdote, pour vous montrer à quel point il s'était immergé dans cette culture, et donc il avait le premier favorisé ce dialogue, lorsqu'il habitait dans le 5e arrondissement de Paris, dans le quartier latin, rue Claude Bernard. J'ai eu le témoignage de ses enfants et de ses petits-enfants qui me l'ont dit très clairement. Il parlait en famille la langue kanak qu'il avait apprise en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'avec sa femme, avec ses enfants qui étaient tous nés dans la brousse, eh bien, il parlait à table, non pas le français, mais la langue kanak, en plein cœur de Paris. Donc vous voyez à quel point il avait jouer ce rôle de l'immersion, la rencontre avec l'autre. Et puis, dernière petite anecdote aussi, puisque c'était un missionnaire, donc après 25 ans d'apostolat, les missionnaires, bien souvent, dans ces années-là, les années 20, les années 30, on leur faisait faire le tour des paroisses, surtout pour obtenir des fonds, pour obtenir l'argent des paroissiens pour qu'ils soutiennent la mission, donc on le faisait témoigner, on lui disait, voilà, est-ce que vous pourriez nous parler de la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas pour obtenir un soutien financier? Et souvent, les missionnaires faisaient une tournée missionnaire, une tournée des paroisses, en racontant des histoires très édifiantes. Voilà, j'ai prié, puis 3000 personnes se sont converties, une histoire un petit peu exagérée. Maurice Sénart était très honnête et il disait, ben, quand on lui demandait alors combien de conversions en 25 ans d'apostolat, combien vous avez obtenu de conversions? Il réfléchissait un moment et il disait, peut-être une, la mienne. Voilà. Donc c'est pour vous montrer le personnage, un personnage assez exceptionnel. Et la Nouvelle-Calédonie a eu la chance d'avoir ce personnage-là. Elle a eu aussi beaucoup de malheurs, mais elle a eu cette chance-là d'avoir un personnage qui était missionnaire, mais qui considérait que la première conversion, c'était la conversion du missionnaire. C'était celle-là qui comptait. Alors, venons-en à... Bon, Maurice Sénart est mort en 1954. Et venons-en à ce qui s'est passé ensuite en Nouvelle-Calédonie. À ce moment-là, pour rester sur les questions démographiques qui sont toujours importantes, dans les années 1950, les Kanaks étaient 52%. Donc ils étaient revenus à un niveau démographique important et surtout, ils étaient de peu majoritaires. Et puis, dans les années 60 et surtout 70, beaucoup d'Européens sont allés s'installer en Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement des Européens, également des Tahitiens, des Wallisiens, des îles Wallis et Futuna, qui sont des îles françaises du Pacifique, des Indonésiens, des Indochinois, comme on disait à l'époque, des Vietnamiens, parce que la Nouvelle-Calédonie a connu un boom sur le nickel, et donc beaucoup d'emplois se sont créés, et la population autochtone est devenue petit à petit minoritaire, puis de plus en plus minoritaire, et à la fin des années 70, elle représentait 42% de la population. C'était la première ethnie, puisque les Européens étaient à peu près 35%, et puis une mosaïque d'autres communautés polynésiennes, indonésiennes, asiatiques, réunionnaises, antillaises également. Alors, on va arriver à l'actualité. Si vous avez entendu parler de la Nouvelle-Calédonie, peut-être vous en avez entendu parler il y a 30-35 ans. Il y a eu là-bas des événements tragiques dans les années 84-88. Pourquoi ces événements? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Je vais essayer d'être objectif, de parler de ce qui s'y est passé, et de ces ruptures de dialogue qui ont eu lieu à ce moment-là, puisqu'il y a eu un début de guerre civile, donc une rupture de dialogue, et on va voir comment le dialogue s'est renoué ensuite. Bon, je précise que je vivais à Nouméa dans ces années, j'ai été un peu témoin de ce début de guerre civile et de l'enrayement de cette guerre civile. Dans les années 85-89, je vivais là-bas. J'enseignais au lycée protestant. Alors, pourquoi est-ce que les Kanaks ont repris les armes, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 1917, dernière révolte, donc 1878 la grande révolte, 1917 la dernière qui a été évidemment réprimée elle aussi, et pourquoi est-ce qu'en 1984, ils ont décidé de retourner à la violence dans une perspective d'affrontement avec la puissance française? Eh bien, je dirais parce que la France avait elle-même trahi sa propre parole à trois reprises. À trois reprises, la France avait promis une décentralisation, une relative autonomie locale, et une promotion de la culture kanak, une prise en compte de la spécificité autochtone. Et puis, à trois reprises, elle est revenue sur sa propre parole et elle a transgressé sa propre parole. Je dis, comme je pense de manière objective, notre pays ne s'est pas très bien comporté avec la Nouvelle-Calédonie et notamment avec la population indigène de Nouvelle-Calédonie. Et donc, au début des années 80, un mouvement politique, le FLNKS, s'est constitué, un Front de Libération Nationale, donc un mouvement indépendantiste, considérant que la France ne respectait pas ses propres engagements, eh bien, une bonne partie de la population kanak, 80-85%, est devenue indépendantiste au cours des années 70, et au début des années 80, on peut dire que la grande majorité des Kanaks étaient indépendantistes parce qu'ils considéraient qu'avec la France, on ne pouvait pas obtenir une parole fiable et qu'il fallait donc se séparer de la France. Et ils ont décidé de le faire en utilisant la violence, puisque les années 84-86 ont été des années sanglantes. Alors, entre 84 et 88, sur 5 ans, il y a eu une centaine de morts en Nouvelle-Calédonie pour des raisons politiques. Je veux dire, 100 morts, ce n'est pas énorme par rapport à d'autres régions du monde, mais si on considère le faible nombre de populations et transposé à la métropole, ça ferait 34 000 morts. Hein. 34 000 morts en 5 ans, vous voyez, ça ferait un traumatisme pour un pays comme la France. Donc ça a été un traumatisme, parce que pendant toutes ces années-là, il y a eu beaucoup de morts. On a surtout entendu parler de la grotte d'Ouvéa en 88, hein, cette prise d'otage, cet assaut par l'armée française, mais il y a eu des morts tout au long de ces années. Et lorsque l'assaut a été donné à la grotte, moi je me souviens très bien à ce moment-là, tout le monde pensait que ça allait être l'explosion totale, ça allait être un bain de sang. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Pourquoi est-ce qu'on est rentré de nouveau dans une logique de dialogue? Eh bien, parce que venait d'arriver au gouvernement français un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime, c'était Michel Rocard, qui venait d'être nommé Premier ministre, et qui avait une certaine intelligence politique, mais surtout, il était très bien informé de la situation en Nouvelle-Calédonie, il savait quel levier on pouvait toucher, et il a proposé d'envoyer une mission du dialogue. C'est-à-dire, 7 personnes, dont certains étaient des serviteurs de l'État, et d'autres étaient des représentants des églises et de la franc-maçonnerie. On ne ferait pas ça s'il y avait un problème en Bretagne ou au Pays Basque, mais en Nouvelle-Calédonie, ils savaient que c'était la carte à jouer. Parce que la Nouvelle-Calédonie a une dimension religieuse très, très prégnante, les églises ont un rôle bien plus important qu'en métropole, et la franc-maçonnerie est aussi très marquée, il y a différentes loges qui ont un rôle important dans la vie politique, et donc en envoyant le président de la Fédération protestante, le recteur de l'Institut catholique de Paris, le grand maître de la Grande Loge de France, il a permis ainsi de renouer les fils du dialogue. Toutes ces personnes ont pu se mettre à l'écoute de milliers de néo-calédoniens, de toutes les ethnies, de toutes les opinions politiques qui ont pu s'exprimer. Ils ont donc auditionné des milliers de personnes. Et au bout de 3 semaines, ils sont rentrés à Paris avec toutes les notes qu'ils avaient prises de ces auditions. Et Michel Rocard a invité les leaders indépendantistes et anti-indépendantistes à venir négocier à l'hôtel Matignon. Ils les ont en quelque sorte enfermés dans l'hôtel Matignon en disant « voilà, vous restez là et vous ne sortez pas avant d'avoir trouvé un accord, vous ne communiquez pas avec l'extérieur », à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, donc vous ne communiquez pas, tout cela se fait à huis clos, et au bout de 3 jours, ils sont sortis de l'hôtel Matignon en se serrant la main. Moi j'étais à Nouméa à ce moment-là, tout le monde était absolument éveillé, on se demandait comment est-ce qu'ils avaient pu renouer les fils du dialogue, alors que quelques semaines avant, ils se tiraient dessus. Et je donnerai juste une petite anecdote pour montrer le retournement de situation qui a eu lieu donc en juin 88. Avant cette mission du dialogue, dans le journal, dans le quotidien local, qui est un quotidien pro-français, anti-indépendantiste, les Kanaks étaient croqués, étaient dessinés dans des caricatures comme des singes, avec 4 doigts aux pieds et un os dans les cheveux. Après la mission du dialogue, ils devenaient des gens respectables, qu'on allait interviewer, qu'on allait écouter, dont on faisait les gros titres. Donc on a eu, comme ça, en quelques semaines, par la mission du dialogue, par une médiation très bien pensée, très bien organisée, un retournement complet de situation. Et surtout, l'atmosphère dans la rue avait complètement changé. On était donc dans une guerre civile auparavant, avec des noirs et des blancs qui ne se fréquentaient pas, qui se regardaient en chien de faïence, qui étaient par groupes séparés dans les rues, qui n'allaient pas sur les mêmes plages. Par exemple, à Nouméa, les blancs allaient sur certaines plages, les noirs sur d'autres. Non pas parce que c'était interdit, c'est pas de l'apartheid, c'est pas du tout interdit, mais c'est pas comme ça. Voilà, on ne se fréquente pas, on ne fait pas les mêmes sports, on ne va pas dans les mêmes églises. Et à partir des accords, à partir de la mission du dialogue et des accords de Matignon qui ont été signés, eh bien la situation a commencé à changer. Alors vous le savez, les 2 leaders indépendantistes l'ont payé de leur vie 1 an plus tard, en 89, ils ont été assassinés par un extrémiste du camp indépendantiste, donc un extrémiste de leur camp qui a considéré qu'ils avaient fait trop de compromis avec leur ennemi. Mais à partir de mai 89 jusqu'à aujourd'hui, donc 31 ans, pendant 31 ans, il n'y a plus eu un seul assassinat politique en Nouvelle-Calédonie, donc la paix est revenue, et le dialogue s'est petit à petit renoué. ça n'a pas été facile, mais ça, ça s'est fait. Comment est-ce que ça s'est fait? Les accords de Matignon en 1988, ce sont donc ces serments de main entre les deux adversaires, se sont fondés sur un certain nombre de compromis, chacun fait un pas vers l'autre. Donc on renonce bien sûr à la violence, on renonce aux armes. Les indépendantistes ont obtenu une amnistie pour tous ceux qui étaient en prison. La prison était pleine de dissidents, de militants qui avaient été pris sur les barrages et les armes à la main. Donc une amnistie, ça a été important. Le pas qu'ont fait les indépendantistes vers les anti-indépendantistes, c'est de renoncer à l'indépendance immédiate et de reporter l'indépendance au moins à 10 ans, 98, avec un référendum sur l'indépendance en 98, c'est ce qui était prévu en 88. Et puis, ce que les anti-indépendantistes ont fait comme pas vers les indépendantistes, c'est une provincialisation, une division du territoire en trois provinces, sud, nord et île. Et les provinces nord et île, étant à majorité indépendantiste, allaient obtenir un certain nombre de prérogatives, de compétences. Et donc, les indépendantistes allaient petit à petit apprendre la gestion politique et économique d'un territoire sur des provinces. La province sud étant celle de Nouméa, évidemment, aux mains des anti-indépendantistes. Et donc, pendant 10 ans, il y a eu un rééquilibrage économique. Je ne l'ai pas dit, mais la situation du nord et des îles était catastrophique. C'était quasiment un tiers-monde, alors qu'on était en France en 88. Moi, j'ai connu, mais en 78, c'était encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de route goudronnée en dehors de Nouméa. Un gros effort a été fait par le gouvernement français entre 88 et 98 pour rééquilibrer sur le plan économique et donner une expérience de gestion aux indépendantistes. Également, la formation de cadres. Là aussi, on aurait expliqué à quel point les Kanaks étaient exclus de l'économie, exclus du système scolaire qui était exactement rigoureusement le même qu'en métropole, et donc les Kanaks, dont le français n'était pas la langue maternelle, étaient en situation massive d'échec scolaire. Et donc pendant ces 10 ans, on a formé des centaines de cadres pour que, en cas d'indépendance, ils puissent prendre en main leur pays. En 88, il y avait un médecin kanak, un avocat kanak. Très très peu de cadres autochtones. Donc un gros effort de rééquilibrage a été fait, un gros effort de justice. Et puis en 98, eh bien, tout le monde a considéré, indépendantiste comme anti-indépendantiste, que ce n'était pas encore le moment de faire un référendum sur l'indépendance. Parce que on avait peur de revenir à la violence, revenir à des clivages antérieurs vers lesquels personne ne voulait revenir. Et donc, il y a eu un consensus pour dire, on poursuit le processus de dialogue, on poursuit le processus de rééquilibrage, on essaie de faire en sorte qu'on se parle de plus en plus. Et puis, le référendum sur l'indépendance, on le reporte jusqu'en 2018. C'est-à-dire, on le reporte de 20 ans. Donc, ça fait 30 ans après les accords de Matignon, 10 ans jusqu'à 98, ce qu'on appelle l'accord de Nouméa. Donc, les accords de Matignon en 88, l'accord de Nouméa en 98, et donc, un référendum sur l'indépendance en 2018. Les indépendantistes, à ce moment-là, ont malgré tout obtenu quelque chose de très important pour eux, en reportant encore l'indépendance d'au moins 20 ans, c'est d'une part un gel du corps électoral. Ça a été évidemment une négociation très difficile, mais voilà, les anti-indépendantistes ont accepté qu'il y ait un gel du corps électoral, c'est-à-dire que ne votent que ceux qui vivent sur place, qui ont leur résidence principale sur place, qui ne soient pas de passage. Quand on est de passage pour 2-3 ans là-bas, quand j'étais là-bas, je votais comme si j'étais à Brest ou à Marseille, parce que je m'étais inscrit sur les listes électorales, comme si j'étais en métropole. Eh bien, ça, c'est plus possible. Donc, pour le référendum et pour les élections provinciales, ne peuvent voter que ceux, soit qui sont nés sur place, soit qui ont leur résidence principale sur place et qui sont là depuis au moins 10 ans. Et évidemment, ça favorisait les indépendantistes. Et puis, ils ont obtenu quelque chose d'un peu étrange aussi sur le plan constitutionnel, c'est qu'il y aurait un premier référendum en 2018 et que si le non l'emportait, il y aurait un deuxième référendum 2 ans plus tard, 2020. Et si le non l'emporte, il y aurait un troisième référendum 2022. Par contre, si le oui l'emporte, il n'y a pas de deuxième ou de troisième référendum. Vous voyez, c'est quand même un peu spécial. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, vous l'avez peut-être entendu l'an dernier, enfin, en novembre 2018, il y a un peu plus d'un an, le 4 novembre, il y a eu un référendum sur l'indépendance, avec un corps électoral gelé. Et ce référendum a donné les résultats suivants, 43,3% pour l'indépendance, 56,7% contre. On va dire, ben, c'est donc la France qui se maintient en Nouvelle-Calédonie. Oui, sauf que les sondages ne donnaient pas du tout ces chiffres-là. Tout le monde croyait que ça allait être que le camp français, que le camp loyaliste, comme on dit, anti-indépendantiste, allait l'emporter haut la main à 70, soit 75%. Certains parlaient même de 78%. Les sondages ont été démentis. Et donc, c'était très étrange, au soir du 4 novembre, les gagnants avaient l'air d'être les perdants, parce qu'ils n'avaient que 56%, et les indépendantistes faisaient la fête, étrangement, alors qu'ils n'avaient que 43%. Et donc, ils ont tout de suite, les indépendantistes, ont tout de suite dit, ben, on se prépare pour le référendum suivant, et donc le deuxième référendum aura lieu le 6 septembre de cette année 2020, les indépendantistes espérant grappiller encore quelques voix pour se rapprocher des 50%. D'ailleurs, ça s'est un peu confirmé puisqu'il y a eu des élections provinciales entre-temps où ils ont encore progressé, en mai l'année dernière. Et donc, ils comptent sur ce deuxième, voire sur le troisième référendum pour l'indépendance. Alors évidemment, quand on revient à des votes de type référendaire, de nouveau les clivages ressurgissent. Et donc tout le dialogue qui avait été noué depuis 30 ans, avec cette notion de destin commun qu'on avait mis en avant, c'est-à-dire destin commun, on doit tous vivre ensemble, avec ou sans la France, il faudra le décider, mais on cherche à vivre ensemble. Ce concept de destin commun qui est un peu un mot valise, hein, on peut mettre les indépendantistes et les anti-indépendantistes s'y retrouvaient parce que les indépendantistes ont cessé de dire on veut mettre tous les noms kanaks à la mer, comme ça avait été dit dans les années 70. Donc on veut être ensemble, mais sans la France, et les anti-indépendantistes disaient on veut être ensemble, mais avec la France. Donc tout ce dialogue autour de qu'est-ce que c'est que notre destin commun, tout cela avec aussi une grande participation des églises pour essayer de comprendre ce que ça signifie d'être dans un destin commun, ben tout ça est un peu mis à mal quand on rentre dans la période référendaire, évidemment. Parce qu'il y a un moment où il va falloir décider. Et puis, ce qui est un peu inquiétant pour l'avenir, c'est que de toute façon, même si les indépendantistes l'emportaient, ils l'emporteront avec 51%. Donc voilà, il y a une décision quand même grave qui va être prise avec 51 contre 49, s'ils arrivent. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunesse qui arrive à 18 ans, en 4 ans, il y aura un certain nombre de jeunes qui vont devenir des électeurs. Et donc il est possible en 2020, on n'y croit pas trop, mais 2022 pourquoi pas. De toute façon, cette rupture avec la France, elle se fera sur 51 contre 49. Vous voyez que pour le dialogue, c'est quand même pas l'idéal. Alors là encore, et je terminerai avec le rôle des églises, cherchent à maintenir le dialogue malgré ces clivages politiques. Elle cherche à une reconnaissance mutuelle, une reconnaissance des communautés les unes et les autres. Et là, je pourrais témoigner de ce que j'ai vu l'an dernier, puis là, j'y suis allé en 2018 et en septembre-octobre 2019. Et je n'étais pas retourné depuis 1989, donc en 30 ans, j'ai vu un changement complet sur le plan du dialogue. Un changement complet, c'est plus le même pays, c'est un pays que j'avais connu divisé, que j'avais connu écartelé et ensanglanté par cette guerre civile. Et j'ai trouvé un pays, d'abord, où les Kanaks avaient pris leur place, où des quantités de cadres avaient pris des responsabilités dans tous les domaines, et puis où, par exemple, pour reprendre des exemples de tout à l'heure, les différentes communautés se fréquentent sur les mêmes lieux. Il n'y a plus maintenant une plage pour les Blancs, une plage pour les Noirs, comme c'était le cas il y a 30 ans. Ça, c'est vraiment très, très, très marquant. Les dialogues sont des dialogues tous azimuts. Donc, même si les enjeux sont quand même risqués pour l'avenir, il risque fort d'y avoir j'espère pas des violences, mais en tout cas des tensions, puisqu'il va y avoir de nouveau des gagnants et des perdants. Quand il y a un référendum, il y a forcément des gagnants et des perdants. Malgré tout, un certain nombre de personnes, et tout le monde associatif et surtout le monde des églises, essayent de maintenir une certaine qualité de dialogue pour que, quelles que soient les décisions politiques qui seront prises, il n'y ait pas vraiment de perdants, qu'il n'y ait en tout cas pas d'humiliation, qu'il y ait donc une reconnaissance mutuelle qui soit... qui perdure, puisqu'elle a été mise en œuvre déjà depuis une trentaine d'années.